Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Au milieu des flammes hier soir, au milieu de ces images sidérantes de Notre-Dame de Paris en feu, entendez les cloches des églises de la capitale, le son de la solidarité. On ne connaît pas encore l'ampleur exacte du désastre. Le grand orgue est sans doute touché, dit le ministre français de la Culture. Le toit effondré, la flèche, elle, est tombée. Et cette promesse, Notre-Dame de Paris sera reconstruite. Emmanuel Macron s'y est engagé dès hier soir.
Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond.
Les promesses de dons, des grandes fortunes et des simples citoyens se succèdent. L'aide afflue de partout, en Europe, d'Italie notamment, avec un message d'espoir lancé par l'emblématique théâtre de la Fenice de Venise, détruit lui aussi par les flammes en 1996, Cécile Debarge.
Nous avons brûlé deux fois, mais deux fois nous avons ressuscité de nos cendres, plus fort. Nous sommes à vos côtés les amis, donc n'ayez pas peur. Voilà les mots de soutien tweetés lundi soir par le compte officiel du théâtre La Fenice de Venise, dont le nom signifie en italien « le phénix », du nom de l'oiseau qui renaît de ses cendres. Car dès l'origine, à la fin du XVIIIe siècle, La Fenice est construit sur les ruines d'un théâtre détruit par le feu. En décembre 1836, un premier incendie ravage le bâtiment qui rouvrira, refait à l'identique un an plus tard. Mais l'incendie qui a marqué les esprits de tous les Italiens, c'est celui de 1996. La Fenice était alors en travaux. Et pour ne pas payer les amendes liées au retard de leur entreprise, deux électriciens ont mis le feu au théâtre. Ils ont été condamnés à 6 et 7 ans de prison, soit moins que le temps qu'il aura fallu pour sauver une fois encore le théâtre de la désolation. Il a finalement rouvert en 2004 avec notamment un concert exceptionnel. L'un des artisans de la renaissance de la Fenice, Guerino Lovato, est optimiste. Il explique que les Français n'ont pas le tabou qu'on peut parfois avoir en Italie. Ils n'ont pas peur de reconstruire les structures exactement dans leur style de l'époque. Fabio Carapezza Guttuso, qui gère lui la sécurité du patrimoine italien au ministère de la Culture, a déjà proposé d'envoyer des experts en patrimoine pour aider leurs collègues français à travailler à la reconstruction de la cathédrale.
De l'Italie au Royaume-Uni, à Londres également, les messages de solidarité n'ont pas tardé, Marie Billon.
Et oui, le maire de Londres, Sadiq Khan, a été le premier à faire part de sa solidarité et de son amitié pour les Parisiens, suivi de près par Theresa May et de Nicola Sturgeon, la première ministre d'Écosse, qui a même choisi de poster un emoji de cœur brisé sur les réseaux sociaux. C'est un drame culturel mondial, a-t-elle précisé. Même les campagnes pro et anti-Brexit se sont pour une fois rejoints dans un sentiment commun de soutien à Paris. Un journaliste de la BBC a cependant rappelé que cette fraternité est lourde de sens. C'est en la cathédrale Notre-Dame que le roi d'Angleterre, Henri VI, a été couronné roi de France en 1431, alors même que le trône était déjà occupé par Charles VII. On ressort la guerre de Cent Ans, même en ces temps de tragédie, parce qu'elle fait partie de l'histoire commune. Les Britanniques d'ailleurs s'identifient beaucoup à ce qui s'est passé. Ils ont encore dans l'œil cette photo de la cathédrale Saint-Paul au milieu des flammes après un bombardement du Blitz pendant la Seconde Guerre mondiale. On pense égoïstement aussi au palais de Westminster, en pleine restauration, hérissé d'échafaudages, dont le style néo-gothique fait penser et s'est fait exprès à une cathédrale médiévale. Mais ce dont on se souvient surtout, c'est l'incendie du château de Windsor en 1992. Une partie de cette forteresse dont la première pierre a été posée en 1066 est partie en fumée au grand désespoir de tous et de la reine elle-même, qui a d'ailleurs fait part de son émotion et de sa solidarité à la mi-journée.
Vassili Petrovich Golobarotka.
Da.
Dobroye utro, господин президент.
C'est le grand favori du second tour de l'élection présidentielle qui se tiendra dimanche en Ukraine. Volodymyr Zelensky, nouveau venu en politique, pourrait, selon les sondages, devancer très largement son rival, le président sortant, Petro Poroshenko. Enquête sur la sensation Zelensky, signée Anastasia Becchio.
Au soir du premier tour, à un quart d'heure de l'annonce des résultats, Volodymyr Zelensky joue la décontraction.
Le candidat dispute une partie de ping-pong dans son QG de campagne aux allures de salle de jeu. Le phénomène Zelensky casse les codes de la politique traditionnelle et apporte un coup de jeune, explique le politologue Volodymyr Fessenko.
Il y a une demande de renouvellement. Je blague toujours en disant on a cherché un Macron ukrainien et on a trouvé Zelensky. En fait, on n'a trouvé personne d'autre.
Contrairement au chef de l'État français qu'il admire, Volodymyr Zelensky n'a jamais travaillé dans la fonction publique avant de prétendre à la candidature suprême. L'électorat qu'il conquiert, et surtout un électorat déçu par le président sortant, estime le politologue Constantin Batowski.
Les gens qui votent pour Zelensky, ils ne sont pas bêtes. Ils comprennent très bien qu'ils n'ont pas besoin d'un comédien à la tête de l'État, mais ils ne votent pas vraiment pour Zelensky. Ils votent surtout contre le reste. Ce n'est même pas un vote anti-establishment dans sa conception occidentale. Simplement, les gens en ont marre des mensonges.
Volodymyr Zelensky reste vague sur son programme, sur sa position face à la Russie, sur sa vision du processus de paix pour l'Est de l'Ukraine en guerre. Préférant les réseaux sociaux aux meetings électoraux, il a surtout mené campagne en organisant des spectacles avec sa troupe de stand-up. La série télévisée Le Serviteur du Peuple, où il joue le rôle d'un professeur d'histoire devenu par hasard président, a des allures de manifeste.
Vous savez, je suis un simple prof d'histoire. Un prof d'histoire qui entre dans l'histoire. C'est drôle. Là, j'aurais dû vous faire un tas de promesses, mais je ne le ferai pas. Parce que ça n'est pas honnête. Et en plus, je n'y comprends rien. Enfin, pour l'instant. Mais je sais une chose, il faut agir de façon à ne pas avoir honte de regarder ses enfants dans les yeux.
Pour autant, le politologue Volodymyr Fessenko estime que la série joue un rôle mineur dans le choix des électeurs.
Il est faux de penser que les électeurs votent pour le personnage de la série. C'est un humoriste très connu. Il a beaucoup de notoriété en Ukraine et dans ses émissions, il parodie tous les hommes politiques. Et de son côté, la série télévisée a contribué à forger un mythe politique.
Gloire à l'Ukraine. C'est un slogan qui va résonner dans le monde entier.
Volodymyr Zelensky a surtout conquis un public jeune issu de la révolution de Maïdan de 2014. Les précisions du politologue Mikhailo Minakov.
La jeunesse qui tente de trouver sa place dans l'Ukraine de l'après-Maïdan, elle considère que Zelensky est son candidat. Ces personnes, âgées de 25 à 39 ans, ont grandi avec Zelensky. Pour cette génération, sa satire politique a été très importante pour comprendre la politique ukrainienne.
Une politique jamais éloignée des intérêts des oligarques. Et Zelensky, selon ses détracteurs, n'échapperait pas à la règle. L'équipe de Petro Poroshenko l'accuse d'être manipulée par Igor Kolomoïski, ce que l'intéressé nie. Le très décrié milliardaire a un temps été gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, région russophone d'où est originaire Volodymyr Zelensky. Plus à l'aise en russe qu'en ukrainien, il a toutefois réalisé de bons scores dans l'ouest ukrainophone, comme le souligne Volodymyr Fessenko.
Que ce soit le centre ou l'ouest de l'Ukraine, Zelensky a fait de bons scores. Et pour le deuxième tour, les sondages montrent une avance de Zelensky, même dans les régions de l'ouest.
Au premier tour, Volodymyr Zelensky s'est imposé dans 19 des 24 régions du pays.
Et nous partons en Roumanie, en ligne de Bucarest, notre correspondant Benjamin Ribou. Bonjour Benjamin.
Bonjour Juliette.
Vous nous parlez d'une entreprise sociale, Somaro, qui veut à la fois aider les plus pauvres et lutter contre le gaspillage.
Oui, alors Somaro a été mise en place par un Autrichien, Simon Sweetner, qui vit et travaille en Roumanie depuis plus de 10 ans. Le modèle, qui vient du réseau autrichien Sozialmarkt, propose des produits à prix cassé pour des gens à très faible revenu. Somaro, c'est désormais 2 magasins en Roumanie, à Bucarest et à Sibiu, et surtout plus de 800 familles bénéficiaires.
Est-ce que ce dispositif, Benjamin, il a été bien accueilli en Roumanie ?
Les débuts n'ont pas été faciles. Somaro s'est installé à Piața Matake, un des marchés du premier arrondissement de Bucarest, le plus huppé de la ville. La direction des lieux est allée d'abord réticente à l'idée de faire venir des gens aux revenus modestes. Mais petit à petit, les commerçants se font à cette nouvelle clientèle. La mairie fournit un espace à Somaro, ainsi que les listes des familles bénéficiaires des aides sociales. Ce sont ces gens, aux revenus ne dépassant pas 110 euros par mois, qui fréquentent fréquentent le magasin. Pour eux, le prix est l'argument principal, explique Simone Sweetner.
Nos clients peuvent venir au maximum 3 fois par semaine et peuvent acheter à chaque fois pour environ 2,50 euros d'aliments, ainsi qu'un produit non alimentaire à côté. La valeur réelle se situe aux alentours de 10 euros et eux payent 2,50 euros. On a instauré une limite pour deux raisons. D'abord pour qu'il y en ait pour tout le monde et ensuite pour ne pas que les produits soient revendus derrière au marché noir. Nos clients nous disent souvent que quand ils vont dans un magasin de type supermarché, 70-80% des produits sont trop chers pour eux. Ici, c'est le seul endroit où n'importe quel produit est accessible et où ils peuvent choisir ce dont ils ont besoin.
Benjamin, ils viennent d'où les produits qu'on trouve chez Somaro ?
La plupart des produits alimentaires vendus chez Somaro proviennent de producteurs, distributeurs et importateurs qui ne parviennent pas à les écouler et qu'ils donnent à l'association. Une faible quantité vient, elle, de la grande distribution. Entre deux rayons, on tombe sur Lucian. Lui, il est chauffeur chez Somaro et range les derniers produits qui viennent d'arriver. Pour lui, ce magasin, c'est aussi une manière de lutter contre le gaspillage alimentaire, une nouveauté en Roumanie.
Je pense qu'il fallait vraiment que ce soit quelqu'un de l'étranger qui vienne mettre ça en place chez nous. Les gens n'en ont pas conscience, mais ils jettent sans arrêt. Même si on n'en a pas besoin, on va prendre 10 fois le même produit car il n'est pas cher. C'est ça le gaspillage. Au final, tu payes pour rien car qu'est-ce que tu fais ? Tu manges 10 saucissons ? Tu ne peux même pas manger 3 saucissons en 2-3 jours. Les supermarchés te poussent à acheter. Tu y vas pour prendre quelque chose et tu repars avec 20 trucs.
Somaro a récupéré et vendu plus de 300 tonnes de denrées alimentaires sur l'année 2018, un chiffre en augmentation mais encore une goutte d'eau. L'hyperconsommation des 15 dernières années contraste beaucoup avec les années de pénurie de la période communiste. Il est donc difficile de convaincre les Roumains qu'il faut déjà renoncer à la consommation de masse.
Merci Benjamin, à bientôt. La lutte contre le gaspillage alimentaire en France, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année. Depuis 2016, une loi oblige les supermarchés à distribuer leurs invendus alimentaires qu'ils jetaient auparavant. Mais au tout début de la chaîne, il y a aussi du gaspillage. On y pense moins, mais il arrive très fréquemment que les agriculteurs et les producteurs jettent une partie de leurs fruits et légumes. Et pour éviter cela, l'association Solal, qui existe depuis 2013, est chargée de faire le lien entre les paysans et les associations caritatives d'aide alimentaire. Un système gagnant pour les deux parties. Et une antenne vient d'ouvrir dans les Hauts-de-France, Lise Verbeek.
Le point de départ de la filière organisée par Solal se trouve d'abord chez les producteurs. À Pomely, une société de conditionnement de pommes de terre basée en Picardie, on travaille avec l'association depuis le mois de novembre.
Donc voilà, ici on est dans ce qu'on appelle la partie de lavage. Une rangée, c'est une variété, un producteur.
L'entreprise réceptionne les pommes de terre d'une vingtaine d'agriculteurs, les conditionne et les expédie, notamment aux grandes surfaces, ce qui représente environ 110 tonnes de pommes de terre par jour. Et parfois, les grandes surfaces ne sont pas satisfaites.
Soit défaut d'étiquetage, soit défaut de calibrage, ou alors un épiderme qui pour eux ne leur semble pas assez beau pour les magasins.
Audenay est responsable qualité.
Avant Solal, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait la banque alimentaire de l'Aisne. En fait, on appelait la banque alimentaire de l'Aisne qui se déplaçait, qui voyait si la marchandise était conforme pour donner aux personnes. Sinon, la marchandise était réutilisée. On envoyait un client qui était moins rigoureux. Voilà ce qu'on faisait.
Faites attention, ne pas glisser. Okay.
Il arrivait également que les pommes de terre soient jetées, mais depuis que l'entreprise a adhéré à Solal, elle a donné 18 tonnes de pommes de terre.
Solal s'occupe de tout, il voit directement avec les bases, les personnes qui refusent la marchandise, et ensuite il dispatche dans les différents endroits. Quand on s'est dispatché, Solal nous envoie un mail en disant où ça va partir, comme ça on est au courant. Et après, il nous envoie une feuille de... C'est pas un CERFA, c'est une feuille de don en fait. Je trouve que ça nous facilite la vie pour nous, puisque ça nous évite de faire des retours, payer un aller, payer un retour, recraquer la marchandise si elle est conforme ou non, ou alors la mettre au déchet. Ça nous facilite vraiment, enfin vraiment, vraiment la vie.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai rendez-vous avec Madame Pelletier.
Alors, vous allez tout au bout du couloir.
L'association Solal est donc un relais entre les donateurs et les associations caritatives. Et c'est Cécile Pelletier qui est chargée d'orchestrer tout cela.
Alors, comment ça se passe ? D'un point de vue d'un agriculteur, il va m'appeler directement, il va appeler Solal. Et donc, en fait, après, je vais lui poser des questions sur le produit, le conditionnement, quel jour il préfère pour la récupération des produits. Et moi, en fait, je vais envoyer un sorte d'appel aux dons aux associations d'aide alimentaire proches du donateur. et leur proposer le don. Ils vont me répondre et après, je vais organiser justement la récupération des produits. J'ai rencontré un producteur de carottes il n'y a pas longtemps, c'est un groupement de producteurs, et il me disait parfois il y avait des camions 10 tonnes de carottes et qui étaient refusées. Donc ils ont trouvé d'autres moyens de les utiliser, donc méthanisation, donner aux animaux. Mais c'est vrai que le but premier d'un agriculteur, c'est de nourrir. Et donc du coup, le service que je leur propose du don, ça les intéresse énormément parce que le but de produire, c'est de nourrir.
D'autant plus que les dons sont déductibles d'impôts à 60% pour les producteurs. Depuis 6 mois, Solal a redistribué des salades, des yaourts, des pommes ou encore des poires.
Donc ici, le stockage, on va y aller voir sur place, d'accord ? Le conteneur et puis les chambres froides. Donc
là, de la nourriture qui se retrouve notamment dans les grands frigos de la Banque alimentaire à Amiens, un cercle vertueux pour le président dans le département de la Somme, Christian Bécuve.
L'avantage, c'est effectivement, quand nous avons besoin de denrées précises, puisque nous devons nous inspirer de ce qu'on appelle généralement le camembert nutritionnel idéal, mais nous n'avons pas toujours effectivement à disposition dans notre entrepôt les produits qui composent ce camembert nutritionnel idéal. Donc si nous avons des besoins en particulier, donc sur une denrée en particulière, nous avons maintenant les coordonnées donc de Solal qui pourra voir au niveau de la profession s'il y a moyen de répondre à notre demande. Donc ça veut dire que cette démarche va dans les deux sens. C'est à la fois une demande qui peut émaner d'une banque alimentaire en direction de Solal, mais c'est également, à contrario, des propositions de Solal qui peuvent être faites auprès des banques alimentaires.
Pour le moment, Solal a permis de redistribuer 25 tonnes de produits frais et de légumes à 5 associations d'aide alimentaire dans les Hauts-de-France.
Les pays européens s'intéressent de plus en plus au fléau de la pollution plastique. L'Union européenne vient d'adopter une directive pour bannir les déchets plastiques à usage unique d'ici 2021. On cherche des solutions de substitution, on veut développer le recyclage. Le Portugal, lui, s'est mis à installer des distributeurs d'eau en vrac dans les supermarchés, Marilyn Darcy.
La chaîne Pingodos du groupe de distribution Geronimo Martins a eu l'idée d'installer des distributeurs d'eau en vrac et les consommateurs peuvent y remplir leurs bouteilles achetées au préalable. Lancé à titre expérimental dans 3 supermarchés au printemps dernier, le système Eco, c'est son nom, se taille un franc succès, à tel point que le groupe de grande distribution a décidé d'étendre son service d'eau à 16 supermarchés du nord au sud du Portugal. Le client doit d'abord acheter une bonbonne de 3 litres d'eau au prix de 1 euro et il peut la remplir à la borne libre-service. Une fois amorti l'euro initial, le litre d'eau coûte alors au client 6 centimes contre 38 centimes pour l'une des marques d'eau minérale les plus connues dans le pays. Depuis le début de l'opération Eco, 100 000 litres d'eau sont ainsi vendus tous les mois dans ces magasins, l'équivalent de 70 000 bouteilles de 75 centilitres. La jolie bouteille bleue Eco, avec ses gouttes stylisées sur l'étiquette, est équipée d'un filtre UV pour empêcher la dégradation du liquide et la prolifération microbienne. Le distributeur installé en tête de gondole du rayon boisson des magasins est conçu pour respecter les règles exigeantes d'hygiène. On ne peut pas manipuler le système n'importe comment et il n'est pas possible d'utiliser une autre bouteille que l'Eco. Pour la chaîne de distribution, l'objectif est de se positionner clairement pour un changement de comportement respectueux de l'environnement. Une philosophie que les écologistes portugais applaudissent, car c'est autant de plastique que non rejeté dans la nature. Les ONG demandent cependant une législation spécifique pour la diminution des emballages plastiques et surtout pour inciter à recycler plus, le Portugal étant particulièrement en retard en ce qui concerne le verre, recyclé à 58% contre 74% en moyenne en Europe. L'eau en vrac d'Eco n'est peut-être encore qu'une goutte d'eau dans un océan de plastique, mais elle traduit l'évolution des mentalités.
Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous nous suivez, vous nous réécoutez sur les réseaux sociaux et sur internet rfi.fr, l'onglet podcast. Accent d'Europe, à demain à la même heure.